Vous êtes sur RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et on accueille Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Le troisième confinement a déjà commencé à Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes.
Premier week-end sous cloche entre résignation et contestation. À Nice, nous serons sur place dans un instant. Dans ce journal également, en exclusivité RTL, les noms de plusieurs entreprises accusées de ne pas respecter les consignes sur le télétravail. L'Autriche qui pactise avec la Russie pour tenter de combler son manque de vaccins. Et puis le sourire de Jean Tigana, 65 ans, nouveau coach du Sporting Club de Toulon et toujours bon pied, bon oeil.
C'est que du bonheur, quoi. Ça m'a rajeuni de quelques années. Oui, à mes 20 ans. Ouais. Pas les mêmes jambes, mais avec la même envie. J'ai fait un peu le tour de la boucle. J'espère que je vais bien la terminer.
Et sans oublier la Ligue 1, ce soir, Rennes contre Nice, RTL Foot, dès 20h.
RTL Soir.
Le reconfinement dans les Alpes-Maritimes, c'est parti.
Tout le littoral se retrouve donc sous cloche pour le week-end. À Nice, le maire Christian Estrosi a même décidé de fermer les plages et la promenade des Anglais. La plupart des Niçois acceptent ces nouvelles restrictions. Pas tous, ils étaient quelques centaines à manifester dans le centre-ville cet après-midi, Hugo Hamelin.
Oui, un rassemblement sur la place du Palais de Justice, entre 300 et 400 Niçois, anti-confinement, sans masque pour la plupart, et sur les strates Florian Philippot, dissident du Rassemblement National.
C'est justement ici qu'on a imposé les premières restrictions, c'est ici qu'on a commencé à imposer le masque à l'extérieur, et c'est ici qu'apparemment ça va le plus mal. Liberté, liberté.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit peu de récupération politique ?
Peut-être, c'est certain, mais qu'importe. Là, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Mais là, l'idée, c'est de se soulever, de trouver une voie discordante à ce qui se passe. Et pour l'instant, ça me va.
Alors, les rues se sont vidées ce soir. Les Niçois, dans leur grande majorité, acceptent tout de même ces nouvelles restrictions, même si certains, comme Antonin, ne sont pas convaincus de leur efficacité.
Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on nous a imposé un confinement le week-end. C'est un petit peu difficile, sachant que les beaux jours arrivent, donc il faut faire avec. Ça veut dire qu'on va devoir encore plus se compresser sur la prom la semaine et le week-end, on devra rester chez nous, ça n'a pas de sens.
Une dernière précision de la préfecture des Alpes-Maritimes à destination de ceux qui auraient choisi de fuir le littoral ce week-end. Alors pour aller dans une résidence secondaire, ce sera interdit, mais pour aller dans un hôtel ou une location de vacances, là, ce sera autorisé.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Nice pour RTL. Reconfinement également dans l'agglomération de Dunkerque ce week-end, alors que 20 départements ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sous surveillance renforcée, mais il ne devrait pas y avoir de nouvelles restrictions, au moins jusqu'au week-end prochain.
Et puis à Paris, on en parlait d'ailleurs beaucoup ce matin, la mairie avait proposé un reconfinement strict, total, pendant 3 semaines. Ouais. Avant de rétro-pédaler dans la journée.
Ouais, ce n'était pas une proposition, mais seulement une hypothèse, selon le premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui en a profité ce matin pour demander la mise en place obligatoire du télétravail. Bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Le télétravail, alors c'est devenu un impératif dans les entreprises, mais visiblement, certaines ne jouent pas le jeu. Le gouvernement a décidé de les pointer du doigt en exclusivité pour RTL. Anaïs, vous avez obtenu la liste.
Oui, 3 poids lourds du secteur de la banque et de l'assurance font partie des entreprises épinglées pour non-respect du télétravail. Il s'agit du Crédit Agricole, de la Caisse d'Épargne et de la Massif. Dans certaines agences, d'après nos informations, tout le monde ou presque continuait à venir à se déplacer malgré les règles du travail à distance. L'inspection du travail a intensifié les contrôles ces dernières semaines, avec des conseils, des déplacements dans les locaux, des lettres d'observation et quand ça ne suffisait pas, des rappels à l'ordre. D'après le ministère du Travail, il y a eu 52 mise en demeure depuis le mois d'octobre, quand vraiment les entreprises ne faisaient aucun effort. Et cet après-midi, la ministre Elisabeth Borne a rappelé à tous les acteurs de la banque, de l'assurance et du conseil, l'importance de ne rien lâcher sur le télétravail. Le ministère du Travail va continuer à mettre la pression sur ce sujet, avec des points hebdomadaires sur tout le territoire et le comptage régulier des mises en demeure de l'administration.
Les explications d'Anaïs Bouissou pour RTL.
Et si certaines entreprises n'arrivent pas à appliquer le télétravail, eh bien les écoles, elles, ont fait de gros progrès sur le sujet.
Même si le gouvernement décidait de fermer les établissements scolaires demain, ça n'empêcherait pas l'enseignement de se poursuivre. Avec la crise sanitaire, les profs et les élèves ont réussi à s'adapter. Marie Guerrier, vous l'avez constaté au collège Jean Moulin, dans le 14e arrondissement de Paris.
Dans ce cours de français, les élèves sont en classe avec un surveillant, mais la prof est chez elle.
L'objet de notre séance, c'est de voir la satire.
Sa voix sort de l'ordinateur sur lequel elle diffuse les documents de cours.
Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qui vous frappe ?
Bah, il n'est pas en costume.
Voilà. Mais alors, Maxence, vous pouvez développer un peu votre...
Comme elle, 6 profs du collège sont autorisés à enseigner à distance pour des raisons de santé. Que pensent les élèves de ces cours virtuels?
Ça dépend des profs.
Mais c'est mieux que pas de cours parce que ça nous permet de continuer à travailler de matières importantes comme le français en l'occurrence.
Frédéric Mandler, prof de techno et référent numérique, a dû aider ses collègues pris de cours par le premier confinement l'année dernière et qui avaient besoin
d'être rassurés. Et surtout, pour certains professeurs qui n'étaient pas vraiment informatiques au début, il a fallu leur donner des conseils pour qu'ils se lancent. Oui, on a fait beaucoup de progrès depuis le confinement, évidemment.
L'utilisation de l'ENT s'est beaucoup développée. C'est la plateforme numérique où les profs déposent les cours et les exercices. En cas de confinement, Émilie Godard, qui enseigne les maths, est confiante pour ses élèves.
Ils sont prêts parce qu'ils savent où trouver les documents, notamment les corrections de tous les travaux qu'ils font.
Oui, pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Oui. Ils sont très au point, en fin de compte, les élèves, maintenant.
C'est des instruments qu'on sait utiliser et tout le monde arrive à les utiliser assez facilement.
Au besoin, le collège pourra prêter des tablettes et la mairie d'arrondissement fournira des clés 4G pour la connexion Internet.
Le reportage de Marie Garrier pour RTL. Une bonne nouvelle pour le secteur du livre. En cas de reconfinement, le week-end, les librairies pourront rester ouvertes. Elles sont désormais classées comme commerce essentiel par un décret publié au Journal officiel.
L'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, a décidé d'ouvrir une enquête après la vidéo d'un policier qui tient des propos clairement homophobes.
Un contrôle de police dans le 18e arrondissement de Paris lors d'une intervention pour tapage, un tournage de clip de rap. Malgré le couvre-feu, un jeune homme se fait interpeller et les propos dérapent. Une vidéo qui choque jusque dans les rangs des forces de l'ordre. Joanne Caviro est le président de l'association FLAG qui représente les LGBT+ au sein de la police et de la gendarmerie.
Ce genre de propos est complètement inadmissible. Ça fait des années que FLAG travaille à rapprocher la population LGBT victime de nos services pour une prise en charge. Et en quelques secondes, à cause de cette vidéo, on a tout un effet boule de neige d'une police qui serait complètement homophobe. Et c'est dommage qu'un cas isolé, du coup, porte atteinte à l'image de l'ensemble de l'institution, puisque clairement, la police n'est pas homophobe, mais effectivement, quelques policiers chez nous peuvent l'être, et malheureusement, ils donnent cette image généralisée qui n'est pas la réalité. Alors après, c'est pas à moi de prendre les sanctions. Pour ça, il y a un barème au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a l'enquête qui déterminera s'il n'y a que ces propos-là ou s'il y a d'autres faits à reprocher. Je ne doute pas que l'IGPN demandera la prise de sanctions exemplaires les faits complets sont complètement matérialisés.
Des propos recueillis par Guillaume Chias pour RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. On parle vaccin parce que parfois, ils ne suffisent plus en Union Européenne.
Après la Hongrie, l'Autriche est en train de céder aux sirènes du vaccin russe Sputnik V, un vaccin qui n'a pourtant toujours pas reçu le feu vert de l'Agence Européenne des Médicaments. Mais des discussions sont en cours entre Moscou et Vienne pour des livraisons de vaccins, mais aussi peut-être pour en fabriquer directement en Autriche. Bénédicte Tassar.
Et oui, l'Autriche ne dit pas non au vaccin russe, tout comme la Croatie, la Slovaquie, qui réfléchissent sérieusement, mais pour l'instant dans l'Union Européenne. Donc, seule la Hongrie est passée à l'acte. Budapest a démarré les vaccinations avec les doses russes le 12 février dernier. Sputnik V n'est pas agréé par l'Agence Européenne du Médicament, vous l'avez précisé Alexandre. Son dossier est incomplet, explique Bruxelles. Mais c'est vrai que les pays de l'Union Européenne commencent à s'impatienter, à s'inquiéter face aux variants qui envahissent les territoires. On est en retard sur la vaccination, pestait hier à Bruxelles le nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi. Au total, 50 millions de doses livrées, 30 millions injectés pour 450 millions d'Européens. Et ces Européens se méfient maintenant des labos autorisés. Regardez AstraZeneca qui devait fournir 120 millions de doses à l'Europe au premier trimestre de cette année. Ce ne sera finalement qu'un tiers. Et pour le deuxième trimestre, les 180 millions de doses ne sont pas certaines. Le patron d'AstraZeneca a été auditionné hier par les eurodéputés, mais malgré ses assurances, il n'a pas réussi à étouffer leur scepticisme.
Bénédicte Tassar, en Birmanie, de nouvelles violences entre l'armée et les manifestants, Alexandre.
Près de 4 semaines après le coup d'état militaire, les Birmans continuent de manifester tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Après avoir fait 2 morts le week-end dernier, les forces de l'ordre ont à nouveau ouvert le feu sur les manifestants, faisant plusieurs blessés, Philippe Dova.
Oui, grenades assourdissantes, gaz lacrymogène, tirs de balles en caoutchouc, tirs en l'air de balles réelles. Dans les principales villes du pays, la police n'a pas lésiné sur les moyens pour disperser des milliers de manifestants pacifiques. Scène de panique, nombreuses arrestations, dont celle d'un journaliste japonais, et un bilan provisoire de plusieurs blessés à Rangoon, la capitale économique, ainsi que dans la ville de Mandalay, où, selon des secouristes, plusieurs enfants auraient été blessés. succès. Contrairement aux jours précédents, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les supporters de la junte militaire et les manifestants pro-démocratie. Et malgré les violences policières, ces derniers sont plus mobilisés que jamais pour exiger le retour à la démocratie et la libération des prisonniers politiques, à commencer par Aung San Suu Kyi. Assignée à résidence depuis le coup d'état militaire du 1er février, la leader de la Ligue nationale pour la démocratie aurait été récemment transférée dans un lieu secret, accusée d'importation illégale de talkie-walkie et de violation des règles anti-Covid. Son procès doit débuter lundi, mais pour l'instant, ses avocats n'ont toujours pas été autorisés à la rencontrer.
Le correspondant de RTL en Asie, Philippe Dova. Aux États-Unis, à l'instant, la publication du rapport américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Washington affirme que le prince saoudien Mohamed Ben Salman aurait autorisé une opération pour capturer ou pour tuer ce journaliste Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul. Le président de l'époque, le président américain Donald Trump, avait refusé de rendre ce rapport public.
Et puis on passe au football avec Jean-Vincent. De dire le retour d'un petit nouveau, hein, pour ceux qui se souviennent de l'Euro 86 ou autre, Jean Tigana au Sporting Club de Toulon.
Le club qui évolue actuellement en National 2 s'offre les services d'un très grand nom du football, Jean Tigana, ancien champion d'Europe 84, oui. Membre du fameux carré magique de l'équipe de France, c'était dans les années 80. Bah, c'est gratuitement qu'il va entraîner ce club de foot de Toulon. Plus de 9 ans après sa dernière expérience sur un banc de touche, à 65 ans, il espère emmener le Sporting jusqu'en Ligue 2.
C'est que du bonheur, quoi. Ça m'a rajeuni de quelques années. Hein. Oui, à mes 20 ans. Ouais. J'ai quitté le Sporting il y a 43 ans et je reviens au Sporting, au port. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la boucle et j'espère que je vais bien la terminer. Pas les mêmes jambes, mais avec la même envie. Malheureusement, je n'ai plus le même rythme.
Vous venez là gratuitement, c'est aussi pour redonner au club ce qui vous a donné.
Mais totalement. Aux jeunes aussi, hein. Oui, aux jeunes. Mais aux jeunes, j'ai toujours redonné parce que j'ai toujours donné beaucoup de chance aux jeunes dans tous les clubs où je suis passé. Mais redonner au club, oui, parce que sinon, j'ai eu la chance maintenant de vivre bien, d'avoir une propriété à Cassis, viticole. Et donc, tout ça, s'il ne m'avait pas tendu le bras, eh bien, j'aurais jamais eu ça. Quoi. On va tout faire pour arriver. Quoi.
Quel objectif vous vous donnez de revenir au pro? C'est quoi? Et vous avez un petit calendrier quand même en tête?
Oui, mais je l'ai. Mais si je vous le dis, vous allez me dire, comme mes copains, que je suis un fada.
Voilà, Jean Tigana, le fada avec Étienne Baudu pour RTL. Et n'oubliez pas ce soir, hein, RTL Foot, à partir de 20h, la Ligue 1 avec à suivre le match entre Rennes et Nice en ouverture de la 27e journée.
Merci beaucoup. Et puis on va prendre des nouvelles du ciel, évidemment, Céline Dacosta, parce que finalement c'est un beau week-end qui nous attend.
Mais oui, avec demain du soleil, hein, qui va briller sur les trois quarts du pays dès le matin et largement sur la moitié nord après dissipation de brumes et brouillards. Alors ils seront assez denses quand même, hein, elles seront assez denses, ces brumes et brouillards des Côtes d'Armor à la Normandie, puis en remontant vers les Hauts-de-France. Le soleil brillera aussi généreusement sur l'Aquitaine, près de la Méditerranée et en Corse. En revanche, ça va rester nuageux sur le centre-est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, avec même un petit peu de pluie. Ce sera aussi le retour de la neige sur le massif central vers 1600 mètres d'altitude. Pour les températures, alors on se rapproche des valeurs plus normales pour une fin février, même si on reste encore 2 à 3 degrés au-dessus sur la moitié nord, 9 à 12 degrés demain après-midi. Ce sera plus doux pour la moitié sud avec 12 à 16 degrés. Puis le matin, en revanche, ça reste bien frais partout avec 1 à 8 degrés en moyenne. On se couvre. On met la petite laine demain.
Mais on va quand même profiter du soleil. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, on va défaire le monde avec cette équipe. Vous les entendez, ils s'installent. Bon, ils ne font pas dans la discrétion, forcément. Mais voilà, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit parfum de salon de l'agriculture dans cette émission.
Ça va sentir bon.
À tout de suite.
RTL Soir.